BW. Vue d'Allemagne.
Abi macht frei, littéralement le bac rend libre. Un slogan proposé comme devise pour le bac 2026 dans un lycée d'Allemagne. Le hic, il renvoie directement aux nazis. Les idées d'extrême droite font-elles leur chemin dans les écoles allemandes? C'est le thème de cette semaine dans Vue d'Allemagne. En deuxième partie, on se penche sur une autre période sombre de l'histoire contemporaine, le franquisme en Espagne. 50 ans après la mort de Franco, le travail de mémoire divise les Espagnols. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. C'est une tradition dans les lycées allemands trouver la devise du baccalauréat. Les élèves s'en souviendront toute leur vie. Elle est floquée sur des t-shirts ou des sweats à capuche, sert d'inspiration pour les fêtes du bac et autres événements qui marquent la fin de la scolarité. Mais les futurs bacheliers du Liebig Gymnasium de Gießen, dans le centre de l'Allemagne, préféreraient sans doute oublier certaines des propositions adressées pour la devise du bac 2026. Lors du vote en ligne anonyme, lancé pour trouver la fameuse devise, des propositions pour le moins douteuses ont été envoyées. Abi macht frei donc fait référence au panneau Arbeit macht frei, le travail rend libre, fixé au-dessus des camps de concentration et d'extermination nazis. Mais il y a eu aussi Abi Akbar, explosif durch Abi, qui fait allusion aux attentats terroristes islamistes. Ou encore NSD Abi, verbrennt den Duden, qu'on peut traduire par brûler le dictionnaire, mais qui est aussi à la fois une référence au parti national socialiste NSDAP, aux juifs et à l'autodafé de 1933. Des élèves ont immédiatement informé la direction de l'école, l'accès au vote a été supprimé, la promotion du bac 2026 convoquée. La direction de l'établissement a publié un communiqué rappelant que le racisme, l'antisémitisme et la discrimination n'ont pas leur place dans notre communauté scolaire. Nous nous en portons garants ensemble. Depuis, la police enquête sur le soupçon initial d'incitation à la haine. Difficile en effet de savoir s'il s'agit d'une simple provocation, d'un dérapage de quelques bacheliers immatures ou d'une preuve de l'emprise des idées d'extrême droite sur un nombre croissant de jeunes. Tina Dürr est directrice adjointe du Centre pour la démocratie de Hesse, qui aide et conseille les écoles, les communes ou les associations dans la lutte contre l'extrémisme de droite. Elle n'a pas été particulièrement surprise par l'incident de Gießen.
Les provocations, les propos d'extrême droite, comme cette devise du bac, nous en entendons parler de plus en plus souvent. Ce sont des croix gammées, des insultes d'extrême droite, des saluts hitlériens, des chansons racistes ou d'extrême droite qui sont chantées lors des voyages scolaires. Voici le genre de choses qu'on nous rapporte.
Les Länder ne recensent pas de manière uniforme les délits motivés par l'extrême droite dans les écoles, mais une enquête de l'hebdomadaire Die Zeit auprès des ministères de l'Intérieur des Länder a révélé une image inquiétante. Selon cette enquête, les incidents d'extrême droite ont augmenté d'au moins 30% en 2024 par rapport à l'année précédente. C'est un peu moins que la tendance nationale, puisque selon l'Office fédéral de la police criminelle, les délits motivés par l'extrême droite sont ceux qui ont le plus augmenté en 2024, avec une hausse de 47,8%, un grand nombre est étant des délits de propagande. Il n'empêche, les écoles sont des miroirs de la société dans laquelle les positions extrémistes sont aussi de plus en plus tolérées. Tina Dürr y voit un lien direct avec certains types de contenus qui s'adressent particulièrement aux jeunes sur les réseaux sociaux.
Les sports de combat sont un bel exemple, comme les hooligans violents l'étaient à une autre époque. Mais ce qui est de plus en plus exploité, et c'est un élément typique de l'extrême droite, c'est la masculinité toxique. La misogynie, la dévalorisation des femmes et le retour à une image traditionnelle du rôle des sexes. On dévalorise les femmes et particulièrement celles qui s'affirment, on dévalorise les personnes queer. Ce sont des thèmes qui sont clairement repris par l'AFD et les politiciens présents sur les réseaux sociaux.
Pour Tina Dürr, les enseignants peuvent servir de rempart à ce type d'idéologie, mais le défi est grand pour eux.
Il est important que les enseignants soient une sorte de correctif aux idéologies et à la perception du monde que les jeunes rencontrent sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus important que ce monde virtuel joue un grand rôle dans la radicalisation et la propagation d'idées d'extrême droite. Il faut qu'en dehors de ce monde très virtuel, les jeunes puissent entrer en contact avec des personnes et parler, afin que ce qu'on leur raconte là puisse être rectifié.
Stéphane Dull ne connaît que trop bien le sujet et en a fait l'expérience en tant que directeur d'un lycée en Bavière. Le président de l'Association allemande des enseignants plaide pour une sévérité maximale en cas de dérapage d'extrême droite de la part d'élèves.
Nous sommes obligés en tant qu'employés de l'État de signaler les délits. Nous ne pouvons pas les balayer sous le tapis et dire qu'on va régler le problème avec un petit sermon. Non, mais si l'auteur du délit a 13 ans, on le signale à la police. Et la police vient le voir à la maison et on lui fait la leçon.
L'affaire de la devise du bac 2026 à Gießen a fait tellement de vagues en Allemagne que la nouvelle ministre de l'Éducation, Karine Prien, du Parti chrétien-démocrate, a pris la parole. Elle réclame que la visite des lieux de mémoire, comme les camps de concentration, devienne obligatoire pour toutes les écoles. Tina Dürr, du Centre pour la démocratie de Hesse, ne pense pas que cela soit la solution au problème.
Je ne pense pas que l'obligation seule ait un effet. Une telle visite doit également être préparée, puis débriefée. Donc les enseignants doivent disposer des heures de cours nécessaires à la préparation, au suivi et à l'accompagnement. Le simple fait d'amener des jeunes dans un tel lieu ne signifie pas qu'ils vont changer leur vision du monde. Il ne faut pas oublier que certains jeunes profitent de l'occasion pour faire le salut hitlérien dans un camp de concentration à l'insu de tous. Cela signifie que la demande est juste, mais qu'elle doit s'accompagner d'un soutien aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner cela de manière judicieuse et pédagogique.
Selon Stéphane Dull, 90% des écoles le font déjà de toute façon. Mais le président de l'Association allemande des enseignants estime qu'il est de plus en plus difficile pour les établissements scolaires d'entretenir la mémoire de l'Holocauste. Selon une étude de la Jewish Claim Conference, environ 40% des Allemands de 18 à 29 ans interrogés ne savaient pas qu'environ 6 millions de Juifs avaient été assassinés à l'époque du national-socialisme. Les témoins de l'époque qui se rendent dans les écoles, comme Margot Friedländer, récemment décédée, disparaissent. Paraissent peu à peu. Et le fossé temporel se creuse, souligne le président de l'Association allemande des enseignants.
Nous avons d'une part des élèves dont les parents et les grands-parents n'ont absolument rien à voir avec le Troisième Reich, car ils n'ont pas du tout vécu ici. Et nous avons les autres dont les parents et les grands-parents ne sont nés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc quelque chose a changé en ce qui concerne le lien personnel, le lien familial. Mais pour les anciens, donc pour ma génération et les plus âgés, le Troisième Reich est encore présent dans la mémoire familiale. Mes propres parents ont encore grandi sous le Troisième Reich. Donc nous avons des réflexes quand il y a des incidents de ce type. Et les enseignants réagissent de la même manière, même s'ils sont de la jeune génération, parce qu'ils ont aussi appris que cela ne se fait pas, que cela va à l'encontre des valeurs de notre loi fondamentale, même si l'on ne fait que flirter ou jouer en disant que les nazis étaient une troupe cool.
On continue à faire le lien entre le passé et le présent en deuxième partie de Vue d'Allemagne. 50 ans après la mort de Franco, l'Espagne commence-t-elle à affronter son passé? Après plusieurs décennies de silence, fruit d'une loi d'amnistie générale votée en 1977, la justice espagnole commence enfin à enquêter sur les crimes et les exactions du franquisme. Mais ce travail de mémoire ne fait pas l'unanimité dans un pays où la dictature de Franco continue de diviser la société. À Barcelone, c'est un reportage de Henri de Lagueri.
Accueillie par une foule de militants et entourée de nombreux journalistes, une vieille dame s'avance avec détermination vers l'entrée du tribunal de Barcelone. À 82 ans, Blanca Serra, figure historique de la gauche indépendantiste catalane, est attendue en ce matin de mai par les magistrats du parquet spécialisé dans les droits de l'homme et la mémoire démocratique. Entre 1977 et 1982, dans les années qui ont suivi la mort de Franco, elle a été torturée dans le commissariat central de Barcelone. C'est la première fois en Espagne qu'une victime est entendue par ce parquet spécialisé.
C'est un grand jour pour la mémoire historique et je pense qu'il est très important que les jeunes soient au courant de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Enfin, il faut donner de la visibilité aux femmes et à la persécution que nous avons subie. Il faut le dénoncer et le faire savoir.
Après 50 ans de silence et une amnistie générale qui a empêché toute forme de justice pour les victimes de la dictature, la loi de mémoire historique votée en 2022 par la gauche au pouvoir a débouché sur la création de parquets spécialisés dans les crimes du franquisme. Cette loi permet aux victimes d'obtenir, je cite, « vérité, justice et réparation ». Dans les cas de violations graves des droits de l'homme, la loi couvre des faits commis jusqu'en 1983. Carlos Vallejo lui aussi s'est tourné vers la justice, c'est un ancien syndicaliste, il a été torturé pendant 3 semaines dans les sous-sols du commissariat de Barcelone.
J'étais torturé pour exercer des droits qui aujourd'hui sont constitutionnels, droits d'assemblée, réunion, grève, etc. Et pour moi, c'est un moment évidemment historique.
Les choses commencent à changer en Espagne ?
Oui, il y a pas mal de temps qu'on s'est battu. On ne sait pas seulement le résultat d'un jour, d'un moment, mais d'une longue lutte contre l'impunité du franquisme, du fascisme.
Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2018, le socialiste Pedro Sanchez s'est employé à réhabiliter la mémoire des victimes. Il a mis fin au culte du dictateur en exhumant en 2019 son corps du Valle de los Caídos. Ce mausolée est monumental près de Madrid. Il a supprimé les derniers symboles du dictateur. À l'occasion des 50 ans de sa mort, de nombreux événements sont organisés en Espagne. Mais cette année de commémoration provoque de vives polémiques dans un pays qui reste profondément divisé autour de son histoire. L'opposition de droite estime qu'il faut tourner la page et ne veut pas rouvrir les blessures du passé. Cuca Gamarra est la porte-parole du Parti populaire.
Pedro Sánchez, quand il a des problèmes, siempre saca a Franco à passear.
Quand Pedro Sánchez a des problèmes, il sort toujours Franco de sa poche. J'imagine qu'il s'attend à de nombreux problèmes en 2025. On en est arrivé au point qu'il préfère commémorer la mort d'un dictateur plutôt que de célébrer la démocratie dans notre pays.
Et à l'extrême droite, certains nostalgiques continuent de défendre la mémoire de Franco. Ils se rassemblent chaque année devant sa tombe près de Madrid, parmi eux Almudena.
Nous sommes venus ici pour manifester notre profonde de reconnaissance à l'homme qui a sauvé l'Espagne du communisme tout d'abord.
Mais c'était un dictateur.
Il n'était pas un dictateur, c'est-à-dire c'était un gouvernement autoritaire et puis il ne faut pas le sortir du contexte de l'époque.
Le passé récent de l'Espagne reste donc un enjeu de confrontation. Rappelons que Franco n'a pas été chassé du pouvoir, il est mort dans son lit. Après son décès, les sujets douloureux ont été mis de côté. Et pourtant, 50 ans après, les blessures sont toujours ouvertes, comme l'explique Enrique Urraca, c'est un fils d'exilé républicain.
La dictature n'a pas perdu la guerre, la dictature l'a gagnée. Et le passage de Franco, de la dictature de Franco à la démocratie, ça a été quelque chose comme une chaussure mise avec un chausse-pied, un peu forcé. Il faut dire que cette transition, elle a été faite par les mêmes administrations existantes au temps de Franco. Rien n'a changé.
Vous avez l'impression que le fantôme de Franco plane encore au-dessus de l'Espagne ?
Tout à fait. Je lisais l'autre jour quelqu'un qui écrivait un article qui intitulait « Franco n'est pas mort ». Et je crois que c'est une réalité.
Et c'est une évolution récente. Il y a de plus en plus de nostalgiques de Franco chez ceux qui ne l'ont jamais connu. 26% des jeunes hommes en Espagne pourraient préférer un régime autoritaire à une démocratie. Et les difficultés d'accès au logement et les salaires trop bas expliquent en partie cette colère et cette tendance à banaliser le franquisme. Et de son côté, Blanca Serra est consciente que son audition n'est que le début d'une longue procédure. En attendant, la vieille dame aimerait que le commissariat de Barcelone, là où elle a été torturée, devienne un espace de mémoire aujourd'hui. C'est toujours le siège de la police nationale. Henri de la Guéry, à Barcelone pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Henri de la Guéry pour son reportage. Merci à Oliver Pieper pour le sujet sur les dérapages d'extrême droite à l'école. Merci aussi à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous au podcast, laissez-nous vos commentaires et surtout, portez-vous bien. Tchuss !